Je crois qu'il serait très ambitieux et sans doute d'ailleurs fastidieux pour cette assemblée d'essayer de résumer les propos tenus ce soir. Je vais plus essayer de les mettre en perspective et pour ce faire peut-être de commencer par rebondir sur la formule socratique citée par François Taddeï, « connais-toi toi-même », et qui posait une bonne question qui est de savoir si l'apprenant doit avoir accès aux données dont le système a besoin pour progresser. Et finalement, je crois que ça nous montre qu'il y a un peu un jeu de miroir entre l'école, l'institution et l'élève, l'apprenant. Et qu'un parallèle peut être dressé finalement entre leurs différentes situations. Alors, parallèle dans le rapport au temps d'abord, on a pas mal parlé, notamment au début de ces débats, de l'importance du temps et du temps long de la réforme. Alors, temps long de la réforme, c'était sans doute l'approche française avant qu'on ait un vent de fraîcheur internationale avec votre intervention, Andreas Schleicher, qui nous prouvait que des progrès rapides peuvent être obtenus. On a parlé de la Pologne, de la Corée, du Brésil, de l'Allemagne, de la Hongrie et de l'importance de la dynamique plutôt que des classements statiques. Et donc finalement, il y a sans doute une tension en France entre l'impatience, le fait de vouloir voir très vite des résultats et la nécessité d'adapter les structures en profondeur, avec également cet effet de cohorte qui était mentionné sans doute avec un petit peu de frustration par Jean-Michel Blanquer, et qui disait finalement « je suis jugé sur les résultats de mes prédécesseurs ». C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs, y compris dans le secteur culturel, où dès que quelqu'un arrive à la tête d'un musée, il se plaint d'hériter de la programmation de ses prédécesseurs et de la fréquentation qui en résulte. Et donc, en termes de temporalité, il y a effectivement un enjeu pour l'école, il y a également un enjeu pour l'élève. On a parlé du rapport au temps, du fait notamment que tout se joue très tôt. Il y avait vraiment un enjeu de précocité qui était très, très présent dans différentes interventions. À la maternelle ou même avant, l'a-t-on appris, puisque, comme l'a souligné tout à l'heure Hervé Glazel, la socialisation, c'est dès la première année. Le langage, c'est 2 ans dans le cadre familial, 3 ans dans le cadre extra-familial, et la lecture ensuite vers 6-7 ans. Et donc, un enjeu de rapport au temps qui est particulièrement important. Un droit à l'erreur également, dont on a souligné qu'il était aussi bien refusé à l'institution qu'à l'élève, alors même que justement pour dépasser ces difficultés, ces impasses, et pour progresser, on aurait sans doute besoin de plus d'expérimentation, de plus de liberté pédagogique, de plus d'innovation. Et c'est là également, je crois, un enjeu important qui a été mis en lumière, avec peut-être quand même un souci qui est de savoir dans quelle mesure la liberté pédagogique peut aussi être un frein à la réforme, c'est-à-dire qu'elle peut être l'occasion d'expérimentation locale, mais aussi potentiellement un obstacle à la mise en œuvre de grands changements qui font consensus. Consensus, on a beaucoup parlé de concertation. Et là aussi, justement, un petit peu comme une façon de gérer la liberté pédagogique, on a parlé tout à l'heure de co-intervention avec Nathalie Mons et d'une approche participative qui était d'ailleurs illustrée ce soir. Et merci à toutes les questions qui sont manifestées. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de SMS collectés et désolé de ne pas avoir pu relayer toutes les questions. On a essayé de faire émerger les plus représentatives d'entre elles. Et donc finalement, dans cette approche participative, on a également l'enjeu du rapport à l'autre, qui est une question qui se pose aussi bien pour l'école en tant qu'institution que pour les élèves. Le rapport à l'autre, c'est évidemment la capacité de l'école à accepter des regards extérieurs. Vous avez souligné, François Taddeï, le fait que la recherche biomédicale avait beaucoup bénéficié de l'apport de non-médecins, et l'école bénéficie sans doute également des réflexions et des idées de beaucoup de non-enseignants, et je crois qu'il y a à la fois des enseignants et des non-enseignants dans ce public, et c'est très bien qu'on ait pu fertiliser un peu ces différentes contributions. Le rapport à l'autre, c'est important évidemment pour l'école, mais c'est encore plus important pour l'élève. On a souligné à quel point le fait de pouvoir non seulement absorber, mais également communiquer, relayer sur Wikipédia ou sur d'autres supports ce qu'on a appris, était un facteur de motivation et d'encouragement pour les différents élèves, et facteur d'encouragement qui permet de se préparer à l'étape d'après, après l'école et après l'enseignement supérieur, le rapport à l'autre, quel est-il ? Bah, il est sur le marché du travail. Et je crois qu'on a souligné à travers ces différentes tables rondes l'importance de l'adéquation, et vous venez d'en parler, Monsieur Scheisser, de l'adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail face à une impasse et à un drame. Alors on a eu effectivement une mise en perspective très éclairante sur le fait que le problème du système français n'est pas tellement que les jeunes sortent sans qualification, c'est plutôt qu'ils sortent sans diplôme, venant sanctionner les dites qualifications, et donc avec 17 et 18% des jeunes qui sont concernés, à peu près 150 000 personnes par cohorte chaque année. Comment se sortir de cette situation et enfin éviter, et je reprends votre expression, Monsieur Gumbel, cette irréversibilité un petit peu enquistée dès les premières années de l'étude, des études, et comment permettre finalement de s'adapter à un système en évolution, un marché du travail qui va changer, dont les métiers, comme vous l'avez souligné, ne seront pas les mêmes demain qu'ils le sont aujourd'hui et qu'ils l'étaient a fortiori hier. Bien, c'est évidemment en considérant que d'une part, l'échec n'est pas une fatalité, que comme on l'a vu en Inde, le décrochage peut aussi permettre de faire émerger des vocations d'entrepreneurs. Quel beau message d'espoir pour voilà, les publics concernés en France qui sont extrêmement nombreux. Et puis également, sans doute, en ayant une approche de l'enseignement et des techniques d'apprentissage qui soient un petit peu différentes, qui reflètent mieux la complexité du monde, qui permettent de répondre mieux aux questions ouvertes, aux questions qui ne sont pas dans un environnement fermé, aux situations non familières. Voilà donc à grands traits, et j'essaie de respecter la règle des 5 minutes que m'a fixée Martine pour m'exprimer et qui était, je crois, un cadre imposé à chaque intervenant. Juste pour conclure peut-être, je crois que pour nous tous, l'école est avant tout associée à l'apprentissage et que nous avons beaucoup appris ce soir grâce à chacun des intervenants. Et l'école, c'est aussi un moteur, ou en tout cas un lieu qui stimule une forme de reconnaissance, mais une reconnaissance dans le temps long, et qu'on n'a pas toujours l'occasion d'exprimer aux enseignants qui nous ont tant apporté. Ce soir, on a le temps et la possibilité de remercier chacun des intervenants, donc je voulais le faire au nom de l'Institut Aspen, et donc remercier vraiment individuellement chacun de vous pour votre contribution très utile. Remercier Louise Touré pour l'animation de ces débats. Chacun des membres de l'équipe Aspen qui s'est impliqué dans l'organisation et la préparation de cette conférence. Vous-même pour votre temps, votre disponibilité, à nouveau votre participation très, très active et qui a permis de rendre ces débats interactifs. Et enfin, j'étends ces remerciements d'une part à l'Institut français de la mode qui nous a très aimablement accueillis et à la mairie du 13e arrondissement qui nous a également apporté son concours. Merci à tous.